Monsieur Rudy Ricciotti devrait nous rejoindre. Je suis moi-même Jean-Étienne Solève-Bazeille, l'adjoint à l'urbanisme de la ville de Bègles. Et je suis honoré d'avoir à côté de moi, comme invité spécial, Monsieur Princis, qui est directeur du bureau de l'architecture de la ville de Riga, en Lettonie. Alors, cette intervention, normalement, elle est interactive, c'est-à-dire qu'on va peut-être donner quelques éléments. Et bien entendu, l'intérêt, c'est que vous, vous puissiez vous positionner, parler, effectivement, et donner votre avis qui sera sûrement éclairé. Le thème de cette rencontre, c'est l'appropriation, l'appropriation patrimoniale. Qu'est-ce qui fait objet du patrimoine, comment dans le fond on doit travailler, qui dans le fond s'approprie de facto le patrimoine, est-ce que c'est la puissance publique, est-ce que c'est les élus, est-ce que c'est le citoyen simple, comment dans le fond on peut arriver à faire cadrer tout ça. Alors si je dois juste, je ne vais pas parler très longtemps, mais en trois minutes, et ramener à l'histoire d'un territoire qui est la ville de Bègles, une petite commune au sud de la grande ville qui est Bordeaux, qui est juste à côté de la Garonne, et comment sur ce territoire, avec une histoire ouvrière importante au 19e, c'était là où Bordeaux envoyait toutes ses industries polluantes, et comment, dans le fond, sur ce territoire qui est un rectangle, qui fait 1000 hectares, nous en avons pratiquement le quart, c'est-à-dire pratiquement le quart, effectivement, qui est une nature totalement intouchée. Intouchée parce qu'elle était justement dégradée, arrosée par deux esteils. On appelle esteils ces petites rivières qui viennent en affluent sur la Garonne. Et ce territoire-là, qui est une zone humide, qui est une zone où la nature a pris ses droits, et qui respire avec, effectivement, le fleuve, à l'occasion des grandes marées, à l'occasion des inondations, et qui est une très très grande richesse biologique et patrimoniale, et maintenant respectée. Comment, dans le fond, on est passé sur ce territoire qui est resté non intérêt et même au contraire de danger, c'est-à-dire que 17e, 18e, 19e, les zones humides où il y a des moustiques, il y en avait encore, pouvaient provoquer le paludisme, les palus, pouvaient provoquer des maladies. Donc, dans le fond, ces territoires, on ne se les appropriait pas. Et l'intérêt, c'est que ces territoires intouchés, actuellement, par leur biodiversité, par leur qualité, deviennent de très, très grande valeur. Juste pour dire que, dans le fond, cet intérêt patrimonial, nous l'avons réalisé sur une période de 20 ans, avec le maire Noël Mamère et ses différentes équipes municipales, où c'était cette thématique de l'eau, je viens de l'aborder, qui était importante. Donc, défense de ce territoire, première défense, par exemple. La communauté urbaine de l'époque, il fallait à tout prix que lorsqu'il y avait des inondations, l'eau circule très, très vite. Et donc, l'intérêt, c'était de mettre des pales planches de béton, comme à Villedave-Nornon, pour que les molécules d'eau s'évacuent le plus rapidement possible lors des inondations. Et nous avons dit, première lutte, non, on ne touche pas ces territoires. Laissons respirer ces territoires. Laissons les inondations. Laissons parce qu'on va trouver des alevins, parce qu'on va rentrer dans des chaînes alimentaires, et parce que ce territoire, si on en a hérité depuis deux siècles, et s'il est intouché, il faut le conserver. Là, il y avait un choc culturel entre, je dirais, les techniciens, une envie de faire et de bien faire, et dans le fond, une posture politique sur ces territoires en disant non, on n'a pas le droit d'intervenir d'une façon aussi violente. Ça prend du temps, ça prend de la persuasion, mais on peut y arriver. Et donc cette thématique de l'eau, on l'a retrouvée sur une, non loin de là, sur des grands trous qu'on appelle ici des gravières, qui ont servi à construire le laitier de la Rocade, dont une a été transformée en plage urbaine. Ça a été, et hier, si vous avez eu l'occasion d'assister à la présentation de Jean de Jacinto, le fait que la ville ait accueilli sur son territoire le centre technique de l'environnement, qui groupe à la fois le traitement des eaux et la centrale, effectivement, où on brûle à peu près la moitié des déchets de Bordeaux Métropole. Et où à la fois la scénographie, l'architecture de ces bâtiments industriels, leur positionnement par rapport au fleuve, faisait qu'on avait, effectivement, on ramenait progressivement ces territoires délaissés vers un climax d'intérêt. Il y a la fonction du temps, j'aimerais bien, et ça, on pourra peut-être en discuter, parce que dans le fond, on dit beaucoup que les politiques doivent changer et changer souvent. Certes, ça peut être intéressant, mais je crois que dans des travaux sur le territoire comme ça, il faut qu'il y ait ces grands invariants dont les équipes peuvent s'emparer afin que l'on rentre dans un continuum de territoire. Voilà, voilà ce que je vous ai dit, ce que je voulais dire en début d'intervention. Je demanderai peut-être à Monsieur Princius de nous recadrer par rapport à Riga et à la Lettonie, s'il a justement une histoire équivalente, en tout cas, qu'elle soit patrimoniale, bâtie ou autre. Et puis, ben, je pense que on va ensemble, par les questions que vous pouvez poser, comment on va pouvoir travailler pendant cette petite heure pour cette rencontre. Voilà, Monsieur Princius, please, if you want to start.
Good morning, and thank you for inviting me to represent for your conference here in Riga. It is second time for me here in Bordeaux, so it's nice to be back and enjoy summer comparing to Riga case. So we have now rains and temperatures around 10, so it's nice to be here. So. Okay, regarding this topic you raised about ownership of heritage, so a short brief of the city is that I come from, or I represent the city which is located East Europe next to Baltic Sea. I'm not sure if anybody have visited Riga so far, so somebody knows. We are really a historic city. We are more than 800 old city, and most of the cities with such a great history has their heritage. And Riga has a UNESCO listed heritage site, which is quite the same as Bordeaux has, which is city center. Vast amount of buildings and territory is being listed, so we have a lot of heritage within the city, and have a relatively long history of dealing with history, dealing with heritage. So this year it's 20 years since Riga City Center has been listed. So 20 years of dealing with UNESCO listed heritage. I would like to put my thesis in this discussion, saying that I will elaborate on the thesis that, or on a concept of a cities or neighborhoods as a collective intelligence rather than administrative bodies. I'm not sure how things are in France and in Bordeaux in particular, but in our region around the Baltic Sea, cities nowadays more and more talk about public participation, co-creation, empowerment of citizens in creation of our future cities. It is really a hot topic. We practice a lot. We engage citizens in planning and in decision making. Recently, actually last year, we have had a conference on this topic in Riga. And the top questions we raised at this conference were we all know that public participation is important, but only few know a clear answer to such questions as who, in which case, and to what extent has to be involved to ensure success in a project in many aspects. So success in keeping heritage, success in developing heritage. So all those questions appear on public discussions. So we really think that public is really crucial for cities and metropolitan areas to keep our heritage. We discussed a best practice examples of social activism in Riga, and we took a look at the idea behind the festival Kometa and its realization in the Daugavgrīva fortress, which is really a building fortress backing from 17th century in Riga. For years been used as a military fortress. Nowadays it's simply empty and not really happening there. So we now facing really active people, neighbors to that building, to that heritage, taking care of it, starting to create some events here. So they have a space or the room to impress themselves, and heritage as such been somehow turned back into a social life. So we think that decision making on a community level will be crucial in the future for taking care of our heritage, especially such cities or metropolitan areas like Riga, where we nowadays face quite, let's say, not really developing situation. So we are not really in a recession, but our socio-economic situation is not as optimistic as it used to be. And since we have a vacancy of buildings on many levels, architectural technology and planning processes will have to facilitate temporary uses of empty buildings in Riga, which we have quite a lot. We have, I think in city center, we don't possess any research on this, but I think we have hundreds of buildings in really a city center empty at the moment. So it's really important for our citizens to keep an eye on those buildings, to start rethink some of possibilities how to use those buildings in the sake of citizens. So I would quit my first reaction with my thesis or statement, saying that I think cities and metropoles in the future should more move from administrative arrangements of taking care of heritage more to collaborative, self-sustainable, self-organized management of heritage. So that would be my statement. And we see in Riga, in our region, that this type of thing works, and I see really a potential in the future for that type of collaboration. Thank you.
Donc, dans le fond, en vous écoutant, et moi, ce qui m'a frappé, à la fois ce patrimoine bâti, tel que vous l'avez dit, et comment on le respecte, comment, dans le fond, si ces bâtiments vides, ils sont vides, c'est qu'ils n'avaient peu d'intérêt, mais c'est comment vous avez créé, et moi, j'ai trouvé ce mot très fort, cette intelligence collective. Comment, effectivement, on va provoquer cette magie qui fait que, dans le fond, tous ensemble, ou en tout cas tous, on peut le souhaiter, mais en tout cas, un certain nombre, c'est un peu comme en biologie, c'est ce qu'on va faire, ces noyaux d'intérêt vont pouvoir se développer. Et ce qui m'a frappé, c'est comment, dans le fond, à travers vos bâtiments, mais on va retrouver ce même processus pour un territoire, alors là, qui n'est pas bâti et qui est totalement intouché, comment on va provoquer cette intelligence collective à partir d'événements. Donc, vous faites des événements, peut-être culturels, vous aurez peut-être l'occasion de nous préciser ça. Pour nous, par exemple, à Bègle, ça a été effectivement essayer de reprovoquer cette mémoire du fleuve perdu. Fleuve qui avait une action économique où on a mené la morue, qu'on allait sécher au 19e, et la rocade dans les années 70 nous coupe du fleuve, où il existait encore des guinguettes, où on pouvait manger des éperlans, on pouvait manger des anguilles à la persillade, et ce côté festif du fleuve est totalement perdu. C'est bien que pour nous, dans justement cette intelligence collective, elle va passer d'abord et surtout par un esprit festif pour provoquer une mémoire et peut-être même l'inventer. Par exemple, la fête de la morue à Bègle, si vous vous interrogez des Bordelais, des Béglés ou même des gens, on a l'impression qu'elle a toujours existé. C'est faux, elle a été créée il y a un peu moins de 20 ans. Mais elle correspondait à des vibrations, à des intérêts et justement à cette appropriation par l'intelligence collective. Et c'est comment on va s'appuyer là-dessus. Monsieur, sûrement, Princess, va avoir l'occasion de développer justement ça, mais j'aimerais bien, puisque on m'a nommé le grand animateur de cet atelier, où on est supposé être interactif, et dans le fond, vous, là, est-ce qu'à ce moment de notre rencontre qui sera brève, vous voulez intervenir sur ces thématiques avec des idées, des témoignages? Qui est-ce qui veut, dans le fond, vouloir nous provoquer et participer à ce débat? Je sais que c'est toujours difficile au départ, mais on est entre amis et rien ne vous sera reproché. Qui est-ce qui veut, justement, à partir de ces quelques minutes qu'on a pu passer ensemble, intervenir? Oui.
Bonjour. Je suis Clémentine Brachet-Sergent, je suis inspectrice des sites naturels pour la DREAL Nouvelle-Aquitaine, donc j'interviens sur la Gironde. Et j'ai bien aimé ce que vous disiez sur justement les invariants. Alors les sites naturels classés inscrits, ce sont quand même des secteurs mis sous cloche, mais qui sont quand même des sites patrimoniaux reconnus au niveau national. Et je voulais insister sur l'avantage finalement d'avoir ces endroits qui sont pas sanctuarisés, mais qui sont inscrit dans la constance, finalement. Et à partir de ce patrimoine qui est là, qui perdure dans le temps, c'est finalement les modes d'appropriation par la population qui vont changer, qui vont évoluer avec les attentes sociales. Et je pense que ces deux temporalités sont importantes à prendre en compte dans cet aspect des choses.
Alors, oui, allez-y.
Oui, c'est un deuxième bonjour. Catherine Bertram, directrice de la mission Bassin minier Nord-Pas-de-Calais. C'est une autre entrée que j'ai retenue de l'intervention. C'est aussi, je trouve très intéressant, c'est les usages temporaires qu'on peut inventer sur les sites en devenir, notamment sur les friches. Et même maintenant, institutionnalisé, je participe à un jury sur l'urbanisme transitoire en Île-de-France, le conseil régional d'Île-de-France, qui maintenant, même la puissance publique, encourage, c'est plus la captation arrivée dans une friche, presque de façon militante, comme les friches culturelles, l'occuper, en faire un projet, enfin, etc. Là, c'est la puissance publique qui dit, on va réinventer un Grand Paris, il y a des délaissés, il y a des, ça a l'air d'être des non-espaces, alors qu'il y a des gens, souvent, hein, des appropriations, même des sentiers, des raccourcis, des usages même enfin, de sentiers, de bâtiments, etc. Il y a des fois des associations qui ont des baux précaires ou des occupations. Et de finalement, que le projet futur d'aménagement dans le Grand Paris intègre cette petite cellule donc, artistique de, d'intervention ou d'associative ou de reconquête d'espace public, quand même souvent par l'art ou les transgénérationnels, de faire voilà, avec la cuisine, avec plein de choses, pour que finalement la programmation future donc, du projet d'aménagement, dans 5-10 ans, intègre cette cellule pour en fait, finalement inspirer le programme futur. Hein, que ce ne soit pas quelque chose qui soit un peu un gadget occupationnel, on va dire, on amuse un peu le citoyen autour, et puis après, on, finalement, on fait tabula rasa, et puis on arrive avec architecte, ingénieur, enfin, boum. Et ça, je trouve ça très intéressant, enfin, c'est comme ça que je le ressens. Une façon, alors je sais qu'en Europe, il y a plein, il y a 15 ans, 20 ans de réflexion, hein, déjà, et d'expérience, mais en tout cas, moi, au niveau pratique, de même pratique professionnelle, c'est très, très, enfin, c'est une entrée que j'ai entendue et que je trouve très intéressante aussi pour l'appropriation.
Je vais juste, il y a une intervention. Je suis ravi.
Bonjour, Alicia Debiaz, laboratoire architecture anthropologie, CNRS Paris. Ben justement, j'interviens par rapport à ce que Catherine vient de dire. C'est que, et je pense que ça peut être intéressant aussi à discuter, dans le sens que sur cette question de l'urbanisme temporaire, il y a quand même des enjeux qui sont très critiques. C'est-à-dire qu'on choisit qui peut s'approprier de quelque chose, dans le sens que l'enjeu, et je vous ferai un exemple aussi d'un autre cas, l'enjeu en ce moment à Paris, et qui préoccupe énormément, c'est que sur toutes ces friches qui sont habitées par des gens et qu'on ne veut pas voir, on les donne à des autres qui peuvent se s'approprier. Donc il y a des gens qui peuvent s'approprier et d'autres qui ne peuvent pas s'approprier. Donc il y a une espèce de choix des bons citoyens qui peuvent faire des bonnes pratiques pour avoir des bons fonciers par la suite et des autres, par contre, qu'on voudra qu'ils soient toujours un peu plus loin, voir les Roms, voir les drogués, voir ce que l'on veut. Donc, sur cette question-là, il faut faire vraiment très attention parce qu'il y a quand même une utilisation de ces cadres-là qui peuvent être vraiment très intéressants comme instruments et comme outils que, quand même, doivent nous faire réfléchir sur qui peut, en ce moment, s'approprier. Je vous fais un cas. Je vous raconte un cas très rapidement. On est en train de suivre une ville en Italie sur une question de... ça ressemble beaucoup à votre cadre. Ils ont un héritage militaire qui est fait des forteresses austro-hongroises. Donc, on est dans le nord de l'Italie. Et suite à la guerre, donc suite à 45, en fait, c'est à 48 qui commencent les choses, tous ces forts sont investis par des associations de tous types. La plongée, les chiens, les motos, tout. Il n'y a pas quelque chose de particulier. Et pendant jusqu'à l'année 2000, ces forts appartiennent aux militaires, donc l'État. À partir de 2000, sont, disons, hérités par la ville. Donc, changement de propriétaire. Les associations qui sont à l'intérieur de ces forts ont eu des contrats, mais pas vraiment légaux, dans le sens de, ils sont à l'intérieur, ils occupent, mais ils ont un rapport avec qui leur donne la possibilité d'occuper, qui a survécu pendant des années, en fait. On n'en pense plus. Ils donnent de l'argent, mais bon, c'est pour payer une petite location et OK. La ville, maintenant, il l'hérite en 2000. En 2000, la ville devient patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de cette enceinte qui est de la Renaissance et ensuite prise par l'Empire austro-hongrois. Et la question se pose, qui va être dedans. Mais tout ça, c'est passe le temps, 17 ans sont passés, et aujourd'hui, ils se posent vraiment la question. Et la question, donc, quand ils nous ont appelés, il y avait une question architecturale. La question était purement architecturale, dans le sens que les forts et les fortifications étaient qu'un enjeu architectural. De sauvegarde d'un patrimoine architectural, architecture militaire austro-hongroise, le plus grand ensemble de fortifications de l'Empire. Donc voilà. C'est quand nous on est arrivé, c'est qu'on leur a proposé, c'est dire mais c'est pas celle-là l'échelle qu'il faut regarder. L'échelle qu'il faut regarder, c'est l'échelle urbaine. Que ces forts-là font à la ville. Et si on regarde ça à l'échelle urbaine, on comprend qui habite dedans, dans le sens habite en tant qu'occupe. Et la question, c'est que ils sont, la ville était un embarras, parce qu'ils disent, mais c'est un poulailler. Il y a les motos, il y a les skates, il y a tout. Il n'y a pas des gens qui savent qu'ils sont à l'intérieur d'un patrimoine, etc. Mais il faut savoir que pendant ces 60 ans, ces forts sont encore debout, grâce à eux, qu'ils ont retapé, bricolé à l'intérieur de ces forts pour faire en sorte que les sièges de leurs associations soient des bons sièges, soient bien, et en même temps qu'ils puissent faire voir un peu l'architecture. Et donc, ils ont fait des réseaux électriques bien faits, à leurs frais. Ils ont tout mis en norme, mais pas comme le patrimoine voudrait. Et donc, maintenant, la question, c'est comment on fait ?
À ce stade-là, je réinterviendrai. Je vous répondrai pour la nature. Monsieur Prince, vous voulez intervenir là, faire quelques commentaires ?
Yeah, thank you. Of course, it depends, countries and cities and experience on those issues. For example, in Riga, we recognize this possibility of implementing this temporary use, let's say, some 5 years ago. So there's no such a long history like you mentioned in some places. So it took us some 3 or 4 years just to clarify those, starting with legal and maintenance issues to let somebody into some building and start doing anything. So it takes time, it takes money to learn to implement some new structures. So but as I mentioned, it's really important for cities and metropolitan areas to have such programs, to have such concepts of going into heritage, taking care of heritage, especially in such cities like Riga. So we now face really a lack of resources, redevelopment things. So there's very important that local people take care of the heritage which they, let's say, live next to it and make use of it on a daily basis. So I think it's important for all type of metropolitan areas.
Alors justement, vous touchez du doigt cette intelligence collective et ses appropriations. Où sont les qui dans le fond, lorsqu'il y a ce patrimoine-là et le patrimoine bâti, où on veut le sauvegarder, on veut peut-être le remagnifier, et puis il a été, et vous avez parlé dans votre cas même de cette action bénéfique de ces associations qui ont évité les dégradations. Et c'est comment, dans une échelle comme ça de reconnaissance, tout d'un coup, est-ce qu'elles ont encore leur existence propre ? Alors bon, nous, c'est un petit fait, si je ramène effectivement à notre territoire qui n'était pas bâti, mais il y avait dans une forêt de, oui, à peu près un hectare de très beaux chênes, et dans le fond, les gens de voisinage avaient l'envie et l'habitude de venir faire leur bois d'hiver pour leur cheminée, et ils abattaient allègrement les arbres. Et donc là, on a dit, eh ben, écoutez, ben, ils ont dit, oui, ben, on a toujours fait ça, nous, notre cheminée, on a froid, on a une cheminée à bois, et il y a le bois là. Et on a dit, ben, oui, mais là, c'est pas tout à fait comme ça. Et dans le fond, ce dont vous parlez, c'est cette trame d'humanité et d'âme dans ces territoires-là. Comment, et quand on les met, alors pour la nature, quand on les met à disposition, je sais que dans le fond, notre maire précédent, puisqu'on vient de changer de maire à Bègles, tenait beaucoup à ces espaces-là, qui disait, moi, je les mets à la disposition de ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, de ceux qui n'ont pas les moyens d'aller, même si ce n'est pas loin, sur le bassin d'Arcachon pour se baigner. Et dans le fond, on fait une plage urbaine, on fait des lieux où on peut faire du barbecue, se réunir ensemble. Et c'est ce qu'il avait appelé d'une façon très intelligente le revenu en nature. Le revenu en nature. Et qui était donné... à la fois aux défenseurs de la biodiversité, on a le vison d'Europe, on a une tortue classée qui vit pas très loin du bassin d'Arcachon, mais qui vit aussi à Bègles. Mais c'est comment, et vous posez la question, comment on arrive dans ces, je dirais, dans ces pluricités d'envie d'investir un territoire, qui est-ce qui décide? Et si on ne décide pas, Comment les choses se font? Est-ce qu'on les laisse aller d'une façon naturelle, un peu darwinienne dans le fond, ou est-ce qu'on va effectivement faire des cotes mal taillées, consensuelles ou pas consensuelles, de s'emparer de cette fonction du patrimoine? Moi, j'aimerais bien aussi... Oui.
Je suis Jean-Pierre Gillot, ville de Dijon. Simplement une petite question. S'approprier un patrimoine, je pense que si on n'a pas de projet sur cette appropriation, on va pas aller bien loin, en fait. Et je pense que c'est le but de départ. Alors l'appropriation, elle peut être un projet, effectivement, comme vous l'avez dit, des habitants, ou un projet politique. Et là, c'est un peu plus compliqué. Après, on impose quelque chose hein, par les politiques qui ont dans leur programme dit, ben voilà, cette zone, on va en faire ceci, ce monument, on va en faire cela. Effectivement, si le monument, il n'a pas un projet, s'il n'est pas pris en compte, après, il va devenir un vestige hein, s'il n'a pas de sa vie, en fait. Donc, je pense que l'idée du projet, c'est quelque chose d'essentiel dans une appropriation.
Mais dans le fond, et puis je vais vous laisser la réponse, qui décide du projet? Qui décide du projet? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est le citoyen? Est-ce que c'est l'associatif? Qui va justement décider de la pertinence et peut-être de l'intérêt? Vous avez peut-être quelques réponses à nous donner.
Je ne donne pas de réponse, j'ai réagi simplement. Et par rapport aussi à ce que vous disiez, j'essaie de vous proposer quelque chose. C'est sur la question de... sur cette question-là, dans le sens, ce que vous disiez, sur la question du fleuve, sur comment justement l'on peut travailler sur ces sites-là, il faut commencer à les repenser, j'ai dit repenser, comme des biens communs, dans lesquels on enlève le mot des commons, on enlève les mots patrimoine, qui... engendre toute une série de choses et on met une question de bien commun. Sur ça, on a une intelligence collective. Sur ça, on peut avoir une intelligence collective parce que l'ensemble des personnes, sur la question du monument, on reconnaît plein de choses. Si on veut faire en sorte que les personnes, je ne dis pas habitants, qui sont les habitants, les associations, qui est là, veulent intervenir, ils interviennent sur quelque chose qui est commun. Sur le patrimoine, on a une administration qui s'en occupe. Si on commence à travailler sur une question des biens communs et qui fonctionnait une fois, dans le sens comment la collectivité, parce qu'on est une collectivité, la collectivité, c'est intéressant quand on ne la prend pas du point de vue administratif. La collectivité, c'est nous. Même ici, on est une collectivité, un collectif. Et si la collectivité prend en charge ceux qui considèrent un bien collectif, eh ben, ces biens collectifs peuvent être gérés. Et de ces points de vue-là, c'est une question qu'il faut regarder avec des gens qui s'occupent des droits, par exemple. Comment légalement on peut faire des choses pour faire en sorte qu'eux aussi, ils puissent avoir des transformations, comment ils puissent avoir aussi des nouvelles... de nouveaux usages autour d'un site, etc. La question de l'étiquette patrimoine pose aussi des questions. Hein. C'est... Je dois vous quitter, je dois aller dans mon atelier.
Vous pouvez rester si vous voulez. OK. Alors, vous, juste avant que vous partiez, effectivement, dans le fond, ce que vous soulevez, est-ce que le mot patrimoine lui-même a cette fonction de sacralité, dans le fond, est-ce que par ce glissement sémantique que vous dites, dans le fond, avec patrimoine, c'est le bien commun? Alors, au niveau de la nature, peut-être que ces glissements sémantiques de bien commun sont en train de passer plus facilement parce qu'on se rend compte que, dans le fond, on ne peut pas être comme ça, isolé de l'environnement, il y a des retours, et on a cette appropriation, et peut-être, ça n'engage que moi, mais peut-être qu'on a moins, dans le fond, cette fracture de sacralisation du patrimoine, et puis où on oublie le bien commun. Je pense que vous vouliez intervenir, madame.
Alessia va partir, mais de toute façon, on va en discuter après. Mais non, mais je pense que si vous mettez patrimoine, et moi, on est aussi patrimoine mondial, bassin minier est patrimoine mondial. Alors, vous avez patrimoine et patrimoine mondial, ça rajoute presque encore une couche de sacralité, hein, valeur universelle, exceptionnelle, qui est une notion extrêmement difficile à faire passer dans le grand public, etc. Donc là, il y a vraiment un décalage, entre vraiment une reconnaissance, cette reconnaissance internationale, etc., très haute, et la représentation que les habitants ont de leur territoire. Et c'est même une conquête, la valeur, même avoir une valeur de leur territoire, ils ne le voient pas forcément, surtout si c'est des fois un patrimoine non monumental, c'est-à-dire des maisons. Nous, on a le patrimoine du quotidien, hein, les maisons, les jardins, les choses vraiment, vraiment basiques. Et c'est aussi, des fois, même la valeur de ce qu'ils sont, qui est assez, assez basse là-dedans. C'est qu'en fait, quand on a fait travailler... C'est pour ça que le travail de l'artiste est extrêmement important dans l'accompagnement et dans la mutation du regard sur la valeur et l'appropriation de ces notions-là. Des fois, la difficulté, même dans les paroles d'acteurs, de faire sortir. Parce qu'ils disent, mais ça, ce que je raconte n'a pas de valeur. Enfin. Donc il y a quand même, en effet, c'est pas une façon de déplacer, mais je pense que c'est ôter les lunettes, un peu parler de bien commun. Et puis, dernière petite chose, c'est des fois une réappropriation qui est en route. Nous, on a dans les cités minières, on a des jardins. Hein, des jardins avec une culture très forte du jardin, qui était même encadrée par l'entreprise des mines, qui d'ailleurs forçait les ouvriers mineurs à bien entretenir leur jardin. Hein. Si vous ne l'entreteniez pas, vous avez une amende. Mais peu ou prou, c'était rentré dans la culture. Là, avec la fin de la mine, les nouvelles populations qui viennent habiter, souvent assez, assez précarisées, le jardin, c'était plus du tout un espace. On l'entretenait plus, les haies, plus de potager, etc., etc. Et donc, on a fait un travail d'atelier donc à l'échelle de cité minière pour retrouver un peu ce goût d'être ensemble aussi. Donc, un jardin partagé, c'est très, maintenant, ça se voit en France, hein, des ressourceries d'outils. Par exemple, on peut venir chercher des outils, des pratiques, des semences et des choses comme ça. Ça recrée du lien physique et du lien social et générationnel. Mais c'est une réappropriation dans ce cas-là. Et ça peut se passer sur 20 ans, ça. Très vite, en fait. Très, très vite.
Merci. Dans ces interrogations qui sont exprimées, comme ça, il me vient deux notions très importantes. C'est, puisqu'on est dans l'appropriation, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi accepter un peu l'informel ? Accepter de ne pas décider pour les autres, parce que c'est bien l'enjeu, c'est qu'il y ait une sorte d'occupation un peu naturelle, un peu spontanée, un peu, on va dire, instantanée. Et qu'en fait, à un moment donné, ce qu'on peut aussi, j'entends l'idée de projet, mais ce qu'aussi, il y a des espaces qu'on ne peut pas laisser, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on n'a pas d'idée. Et quand on rentre dans la notion de patrimoine, qui pour le coup n'est pas une friche non bâtie, moi je pense qu'il y a juste à vérifier, c'est tout presque, que tout ce qui est en route est bien réversible, c'est tout. La notion de réversibilité, c'est tout. C'est-à-dire que si dans 10 ans, on a une idée, est-ce que ce qui a été mis en place, on peut le retirer, le déplacer, et reprendre l'idée de patrimoine. Moi, je pense que la notion, elle est là. Pour moi, la notion de patrimoine, pour ne pas la rendre complètement inaccessible à ceux qui sont autour et la rendre vitrine, c'est qu'il y a une possibilité, si on n'a pas de projet, hein. Alors s'il y a un projet, bien sûr que là, ça devient un bien commun et on est dans une appropriation d'un projet avec ce patrimoine, avec ce socle. Mais quand il n'y a pas de projet, moi, je rejoins un peu ce que vous dites, Ariga, c'est qu'à un moment donné, on laisse un peu l'informel, on laisse la notion de réversibilité. Voilà, c'est tout.
C'est une notion très, très importante que vous venez de soulever, dans le fond. Est-ce qu'on doit tout faire, tout encadrer, et au contraire, est-ce qu'on ne doit pas laisser... et là, le temps va jouer, le temps, les idées, son rôle, des zones, dans le fond, comme ça, de respiration, et qui seraient, alors là, patrimoniales. Le fait de n'avoir pas touché fait qu'on va livrer à d'autres, plus tard, à d'autres politiques, d'autres citoyens, des territoires. Mais néanmoins, c'est, j'entends et je trouve ça particulièrement intéressant, cette notion de réversibilité. Elle est peut-être, je ne sais pas si dans le bâti, peut-être que M. Princes veut intervenir à ce niveau-là, peut-être qu'au niveau de la nature ou des natures intouchées ou de territoires d'enfants que l'on regarde comme ça, dont on s'approche, mais qu'on ne va pas investir d'une façon violente, va permettre ça. Parce que, par exemple, dans la nature, si vous soulevez des intérêts aussi, vous allez soulever des appétences. Et tout d'un coup, on va être nombreux sur des territoires et en voulant les aimer, quelque part, on peut même les détruire. Enfin, il y a toutes ces notions. Mais j'aime... Et effectivement, je trouve que cette notion de réversibilité, de temps, dans le fond, de temps de respiration sur des territoires qui ont de la valeur. Est-ce qu'on peut dire la même chose de bâtiment, Monsieur Princes, sur cette notion de réversibilité? Est-ce que ça évoque pour vous des choses dont vous avez envie de parler?
Yeah, absolutely. I'm not really supporter of this idea of possible reversing or undo things. So let's think of, for example, myself. So buildings and people and everything lives their lives, so it's impossible to undo something after a while. So things move forward, things change. So I would not really stress on this undo concept as crucial, but let's say to my mind, at least in our country, in our city, our planning system and our project management system and heritage management systems been developed for years. So around 100 years, we acknowledge heritage as something to be preserved. So I think we have to somehow turn our heads back and listen to local people, what they think, what's the possibilities lie there, and somehow more proactively react on those ideas and on those concepts. At least in our region, we see that, for example, our countries and our cities have developed or have invested heavily in educating our people. So we have educational programs on heritage. Our people are able to travel around, see things. So they are educated. They are inspired. They have ideas how to take care of heritage they have next door. So I think our societies grow, and we as a, let's say, in this particular situation, representing administrative side, I would say administrative parts and bodies should more develop this possibility to react on local needs and local ideas, to support them so that this common good is well maintained and brings some goods to society.
Écoutez, nous avons été tellement brillants qu'un feu d'artifice naturel est tiré du haut des hangars. Il est très beau feu d'artifice. Je crois que le groupe suivant, nous pourrions continuer, mais nous avons occupé pendant plus d'une heure. Et en tout cas, merci beaucoup de vos interventions, de l'intérêt. Je crois qu'on pourrait poursuivre, et c'est dommage. Malheureusement, le temps est imparti. Nous sommes restés ensemble pendant une heure. Encore merci. Merci, monsieur Princess, d'être venu d'aussi loin, quoique nous sommes toujours en Europe, mais d'être venu aussi loin. Et nous sommes reconnaissants, effectivement, de votre intervention et de votre déplacement. Et vous, merci beaucoup pour vos interventions et votre écoute. Et puis, il reste d'autres ateliers. Continuons ensemble à aller, effectivement, frotter nos cervelles. Merci.